Figure d'hier, pour aujourd'hui et pour demain, avec le père Roger Wilhelm.
Belle figure d'hier et d'aujourd'hui, pour espérer. François d'Assise, notre frère. La deuxième actualité de François d'Assise, celle qui nous le rend plus proche encore et qui s'inscrit profondément dans une époque de grands bouleversements culturels, sociaux et économiques. Car le monde bouge à l'époque. Dans ce passage du XIIe au XIIIe siècle qui annonce d'autres chocs à venir, ceux des temps modernes et de la réforme. Voici l'explosion des villes qui revendiquent leur autonomie, le développement du commerce, et pour citer à nouveau Jacques Le Goff, la lutte des classes, la montée des laïcs, les progrès de l'économie monétaire. Dans son François d'Assise, le retour à l'Évangile, Éloi Leclerc a montré combien François participe de ces changements, lui qui prend part à de violents combats interurbains et côtoie de près la richesse comme fils de drapier. À plus d'un titre, ces mutations déstabilisent les hommes de l'époque, les laissant comme désemparés, sans repère face à des transformations qu'ils ne comprennent pas. Peut-on rapprocher ces anachronismes, cette période de la nôtre ? Est-ce parce que nous avons la chance de vivre plus âgés ? Nous avons conscience de participer aujourd'hui à des transformations totalement inimaginables, voilà seulement quelques années, et perceptible désormais à l'échelle d'une vie humaine. Ce téléphone portable qui nous relie au monde entier, cette nature qui se transforme sous nos yeux, cette économie qui du jour au lendemain s'effondre, cette religion qui ne ressemble plus à ce que nous avons connu il y a peu. Difficile de ne pas frémir devant ces mutations si rapides. Le monde et les temps changent, chantait Bob Dylan à la fin des années 60. Mais au cœur de tous ces défis nouveaux, plus brutaux peut-être que ceux des Trente Glorieuses, François d'Assise offre un exemple très précieux. Comme l'explique Michel Sauté, il invite à devenir des passe-murailles pour mieux appréhender l'interculturel, vivre ensemble en dépit des différences dans un monde aux communications et aux échanges démultipliés, apprendre à connaître l'autre, à scruter ses vraies attentes, comme François le fit avec le sultan, bien sûr, mais aussi avec nos ennemis plus directs. C'est en ce sens qu'il convient de relire l'épisode du loup de Goubillot, probablement un brigand ou une bande qui terrorisait des populations de la région de l'époque et que le saint avait su apprivoiser et comprendre pour mieux ramener le calme. Alors, peut-être vivons-nous à notre manière un moment franciscain. Un seuil de la modernité, pour reprendre l'expression de Bernard Fortaume évoquant la postérité intellectuelle de François. À partir de penseurs comme Jean Duncecot ou Guillaume d'Ockham, celle-ci ne met-elle pas en valeur davantage la volonté libre ? Le sens du contingent, plus que celui d'une réalité déterminée à l'avance. Ce seuil de modernité, ce moment de rupture dans la vision du monde, Michel Feuillet le perçoit de son côté en analysant la peinture de Giotto. à la représentation iconique et hiératique du sacré qui prévalait jusqu'alors, issu de l'art de l'Orient chrétien et de Byzance, le peintre va substituer un art de la perspective et du concret. Expression d'un retour au réel, au contingent, là encore. Voici les villes, les personnages, les expressions des visages rendus à notre regard. Et Giotto travaille à une époque où l'ordre franciscain doit surmonter ses conflits entre conventuel et spirituel, et fait aussi d'Assise le lieu de mise en scène du parcours de François. C'est la première fois que l'on représente la vie d'un saint en une série d'images, la bande dessinée déjà. Après cette évocation de Giotto, comment ne pas signaler une troisième actualité de François d'Assise, cette capacité quasi infinie à être source d'inspiration artistique. À l'heure où une certaine forme d'expression esthétique du christianisme s'épuise, où ce dernier peine à être présent dans la culture contemporaine, le saint continue de séduire les artistes. Il y a bien sûr musiciens et chanteurs, d'Olivier Messiaen à Angelo Branduanzi, ou Rossellini au cinéma. On ne compte plus les écrivains qui se sont emparés de lui, de Delteil à Kazantzakis, de Coupeau à Chesterton, avant un Green ou un Bobin ces dernières années. Simple attrait pour la beauté, pour la capacité du Poverello à faire de sa vie une belle histoire. C'est sans doute l'un des aspects qui a touché le plus l'écrivain suisse Hermann Hesse, dont on publie en français une vie de François écrite en 1904, jusque-là inédite dans notre langue. Son attrait pour l'homme d'Assise reste à découvrir. Fasciné par l'Italie, comme nombre de ses contemporains au début du XXe siècle, il lui consacre une courte biographie qui s'apparente au conte. À la suite d'autres auteurs, Hermann Hesse insiste sur la fécondité du message de François dans le domaine de la culture, qui joue comme un ferment, un stimulant. La langue italienne, l'œuvre de Dante, continue d'emporter la trace. Mais à ses yeux, il y a comme un mystère François. Comment expliquer que cette figure, qui n'a rien écrit ou si peu, ait une telle influence sur la vie intellectuelle et l'art de son temps? Ce paradoxe continue de l'interroger, lui qui par ailleurs s'attarde sur la dimension entraînante du personnage, si prompt à susciter des disciples. Nous sommes ici très proches du thème de l'initiation exploitée de Siddhartha et qui renvoie également aux spiritualités orientales.